Le journal vous est présenté par Jade Péchira.
Bonsoir. Comment éviter la violence sur les réseaux sociaux? Des mesures annoncées à l'occasion de l'appel de Christchurch aujourd'hui à Paris seront-elles réellement efficaces face aux millions d'utilisateurs? C'est la question. Les États-Unis qui craignent des attaques dans le golfe Persique à tel point qu'ils ont décidé de retirer certains de leurs employés de leur ambassade de Bagdad. On fera le point sur la situation avec notre correspondant dans la région, Aurélien Colli. Direction l'Alabama pour parler avortement avec notre invité, François Durper, historien et spécialiste des États-Unis. Dans cet état, les sénateurs viennent de voter une loi qui interdit quasiment toute interruption volontaire de grossesse. Et puis, retour en France, attention à la facture d'électricité avec une nouvelle hausse des tarifs de près de 6%. Ce sera pour le mois de juin. 17 minutes de massacre diffusé en direct sur Facebook. Plus jamais, 2 mois après les attentats de Christchurch en Nouvelle-Zélande, un texte lancé à Paris aujourd'hui pour lutter contre les contenus terroristes et violents sur les réseaux sociaux. L'appel de Christchurch, signé par 26 chefs d'État et des géants d'Internet. Facebook, Google, YouTube annoncent leurs engagements pour éviter la diffusion de ces contenus et leur retrait immédiat. Reste à savoir, Nathanaël Charbonnier, si ce sera suffisant.
C'est un catalogue de bonnes intentions, mais il aura le mérite d'exister. Les pays et les entreprises qui soutiennent l'appel lancé par Emmanuel Macron et la première ministre de Nouvelle-Zélande se sont engagés à promouvoir des actions locales, à rechercher des solutions pour prévenir de ce genre de dérives, ou encore à retirer en urgence les images qui pourraient faire l'apologie du terrorisme. On se souvient que le tueur australien de Christchurch, qui a fait plus de 50 victimes il y a 2 mois, avait pu diffuser les images de la tuerie sur Internet sans que ces dernières soient censurées et qu'il avait fallu un certain temps pour les retirer. Un catalogue de bonnes intentions soutenu par les entreprises du web, telles le français Quant, Wikipédia ou encore Facebook. Facebook qui, en bon élève, a même décidé de débloquer des fonds pour améliorer ses outils et obtenir une meilleure vigilance. Mais un appel aussi signé par 26 pays, dont l'Irlande, la Nouvelle-Zélande, bien sûr, le Canada, l'Angleterre, l'Indonésie ou encore le Sénégal, mais pas par les États-Unis, qui soutiennent mais ne signent pas, une attitude qui s'inscrit dans la volonté des Américains de se retirer de toutes les initiatives multilatérales et visiblement, le numérique en fait partie.
Nathanaël Charbonnier, l'escalade de la tension dans le golfe Persique, une menace imminente liée à l'Iran, c'est la raison invoquée par les États-Unis pour expliquer le retrait d'une partie de ses diplomates en Irak, alors que le ton monte avec Téhéran. L'Iran qui a annoncé la semaine dernière ne plus respecter une partie de ses engagements nucléaires, les Américains eux qui renforcent leur présence militaire dans le golfe. À Beyrouth, la correspondance d'Aurélien Colli.
Pour justifier son alerte, le département d'État invoque des menaces de milices confessionnelles anti-américaines, autrement dit des éléments irakiens, chiites, proches de l'Iran, accusés ces dernières semaines par Washington de préparer des attaques contre les intérêts américains ou ceux de ses alliés dans la région. L'argument a déjà légitimé l'envoi sur zone d'un porte-avions, de sa flotte et de bombardiers B-52 par le Pentagone. Et même si un porte-parole britannique de la coalition internationale en Irak et en Syrie a démenti toute aggravation de la menace iranienne, Washington persiste avec cette alerte en Irak qui met encore un peu plus la pression sur Téhéran. Au risque d'un conflit, s'inquiète la Russie en accusant les États-Unis de provocation, alors que la tension dans la région est déjà alimentée ces derniers jours par les révélations du New York Times sur un plan américain de déploiement de 120 000 hommes face à l'Iran. Tension alimentée aussi par de mystérieux sabotages de pétroliers saoudiens, émiriens et norvégiens dimanche à la sortie du golfe Persique. Tension alimentée enfin par une attaque de drone hier contre un oléoduc saoudien. Attaque revendiquée par les rebelles yéménites soutenus par l'Iran.
Aurélien Colli, ce soir, Donald Trump se dit sûr que l'Iran voudra bientôt discuter avec les États-Unis. Oklahoma, Ohio, Kentucky, Mississippi et désormais l'Alabama, le droit à l'avortement de plus en plus menacé aux États-Unis. Le Sénat de l'État de l'Alabama vient d'adopter le projet de loi le plus restrictif des États-Unis sur la question. Interdiction quasi totale d'IVG à tous les stades de la grossesse. Pas d'exception en cas de viol ou d'inceste. Seule dérogation en cas d'urgence vitale pour la mère ou d'anomalie mortelle du fœtus. Les médecins qui pratiquent l'avortement seront passibles de peine de prison jusqu'à 99 ans. Pour en parler avec nous, invité de la rédaction, François Durper, historien à l'université de Cergy-Pontoise et spécialiste des États-Unis. Bonsoir.
Bonsoir.
François Durper, dans quelle mesure ce projet de loi peut-il être appliqué ?
Alors, c'est un projet de loi qui, bien évidemment, a vocation à être appliqué. Vous l'avez rappelé, il y a à la fois l'interdiction du droit à l'avortement, mais aussi la criminalisation des médecins. Seule la criminalisation des femmes, pour l'instant, échappe à cette loi. Eh bien, il sera appliqué, mais pas dans l'instant, parce que pour l'instant, cette loi, eh bien, elle va être contestée par les organisations de défense des droits civiques, contestée aussi par les organisations, on pense aux organisations féministes, notamment la National Organization for Women, qui est très, très puissante aux États-Unis. Ça sera contesté, ça va aller devant la Cour suprême, mais en attendant, eh bien, ça sera évidemment suspendu. Donc, on ne va pas s'attendre dans les mois prochains à une remise en cause de ce droit, mais une remise en cause plus durable de ce droit. On savait que au moment de la nomination d'un juge conservateur qui fait pencher la balance du côté conservateur à la Cour suprême, eh bien, l'un des premiers sujets serait la question du droit à l'avortement et de sa possible remise en cause.
Ces textes, puisqu'il y a eu d'autres textes anti-avortement au Kentucky, dans le Mississippi, ces textes, ils disent bien la menace qui pèse sur le droit à l'avortement aux États-Unis, même quand ils ne sont pas appliqués.
Oui, tout à fait. La stratégie, elle est très claire. On sait que la majorité des Américains ne souhaitent pas une remise en cause du droit à l'avortement sur le plan fédéral. Cette fameuse loi, cet arrêt de la Cour suprême, Roe versus Wade de 1973, plus de 60% des Américains souhaitent son maintien. Mais les conservateurs ont plus d'un tour dans leur sac et leur idée, elle est simple. C'est une remise en cause état par état. Donc on aurait en quelque sorte un droit à l'avortement à géométrie variable avec des états où le droit à l'avortement est respecté, d'autres états où le droit à l'avortement est remis en cause. C'est le cas, vous l'avez dit, du Kentucky, du Missouri, du Mississippi, de l'Arkansas. Et puis de l'Iowa, on se souvient dans l'Iowa, une remise en cause qui avait été jugée anticonstitutionnelle. Parce que pour les démocrates, pour les progressistes, il y a quand même une stratégie qui est d'inscrire le droit à l'avortement dans les constitutions des différents États.
C'est vrai que 28 États américains ont introduit plus de 300 nouvelles règles depuis le début de l'année. Ça, c'est un décompte de l'Institut Guttmacher qui défend le droit des femmes à l'IVG, à quoi on peut s'attendre dans les années à venir aux États-Unis ?
Bien, ce qui est intéressant, c'est que c'est un sujet qui touche à plein de sujets différents. D'abord, le sujet de la démocratie. Vous aurez remarqué que les États que vous avez cités, on ne passe pas par référendum, mais par des lois de Sénat, de chambres de représentants, de congrès locaux. Ça remet en cause également la question de la science, la biologie de la reproduction, et puis également la question du droit des femmes, parce que les conservateurs, le disent, hein, c'est une remise en cause du droit des femmes au profit du droit du fœtus. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le présentent. Ce qui est intéressant, c'est de constater que aujourd'hui, c'est presque devenu mainstream, c'est presque devenu le courant dominant, cette remise en cause du droit à l'avortement aux États-Unis. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que c'est une guerre culturelle qui était en sommeil, mais qui ne s'est jamais totalement éteint. Parce que derrière ce mouvement politique conservateur, il y a des lobbies, il y a des églises surtout, il y a un mouvement chrétien profondément conservateur qui n'a jamais, jamais renoncé à cette contestation du droit à l'avortement.
Autre question qu'on se pose, dans quelle mesure, selon vous, Donald Trump est-il réellement anti-avortement ? Est-ce qu'il est opportuniste ? Est-ce qu'il fait des concessions pour allier notamment les évangélistes pour sa majorité à un an et demi de l'élection présidentielle ? Ou est-ce qu'entre-temps, il a réellement été converti ?
À la décharge de Donald Trump, la première remise en cause du droit à l'avortement elle est dans l'Ohio et elle date de 2011. Donc Donald Trump n'était pas encore président. La question, c'est que pour Donald Trump, il y a eu dans sa campagne électorale un contrat qui a été passé. Un contrat qui a été passé pour nommer des juges conservateurs à la Cour suprême, et il le savait, Donald Trump, une des conséquences de cela, c'était de transformer le paysage américain, notamment en matière de droit à l'avortement, pour en faire un paysage conservateur, voire réactionnaire. Il y a le Donald Trump populiste, il y a aussi le Donald Trump conservateur, en tout cas, qui a eu besoin de passer des accords avec les franges les plus conservatrices de son électorat pour gagner l'élection 2016. Et là, on est évidemment dans une période électorale qui s'ouvre pour 2020. Il espère que ces mesures puissent aller dans son sens, dans une éventuelle perspective de réélection.
Merci François Durpère. Je rappelle que vous êtes historien à l'université de Cergy-Pontoise, spécialiste des États-Unis. C'était l'ultime recours en urgence, celui des parents de Vincent Lambert pour suspendre la procédure d'arrêt des soins de leur fils tétraplégique en état végétatif. Recours rejeté par le tribunal administratif de Paris aujourd'hui. Le médecin traitant de Vincent Lambert doit commencer cette interruption des soins à partir de lundi prochain. À J-11 des élections européennes, c'est ce qu'on appelle un retournement de situation. La défection hier soir de l'un des soutiens de la France insoumise au profit du Rassemblement national. Andrea Cotarac, ancien membre de l'équipe de campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, élu régional La France Insoumise dans le Rhône-Alpes, appelle à voter pour la liste de Jordan Bardella. Ralliement qui a pris de court Jean-Luc Mélenchon et ses amis, Stéphane Robert.
Il y a d'abord eu de la stupeur et du désarroi dans les rangs de la France insoumise, mais ces sentiments ont vite fait place à de la colère. En particulier chez Jean-Luc Mélenchon, qui a parlé d'une boule puante et d'un coup monté de la part d'un traître à quelques jours du scrutin européen. Mais ce qu'il faut bien noter dans les propos d'Andrea Cotarac hier soir, c'est bien sûr qu'il appelait à voter pour le Rassemblement national, mais aussi et en premier lieu qu'il avait décidé de quitter la France insoumise.
Moi j'ai adhéré à la France insoumise et derrière Mélenchon la moitié de ma vie. Triste et en même temps grave de voir qu'on ne souhaite plus défendre les intérêts du peuple, mais ceux de la gauche, en vue des municipales, en vue des régionales. Et donc, effectivement, j'ai décidé de quitter la France insoumise, sans dire que Jean-Luc Mélenchon est un dictateur, un stalinien, ou qu'il boirait des bols de sang tous les matins. Ce n'est pas vrai, c'est une personne formidable. Malheureusement, la pensée mélenchoniste à laquelle j'ai adhéré, de la France indépendante, d'une république ferme face au communautarisme, d'un combat social fort, aujourd'hui, je pense, est minoritaire au sein de la France insoumise et même ultra-minoritaire au sein de la gauche.
Cette défection d'Andrea Cotarac vient s'ajouter à d'autres départs qui ont eu lieu ces derniers mois. Il y avait eu l'été dernier l'économiste Liang Wang-nok qui revendiquait une meilleure place sur la liste pour les européennes et qui avait claqué la porte. Puis au mois de novembre, les exclusions du conseiller de Mélenchon, Jorge Kuzmanovic, et de l'ex-secrétaire général du parti de gauche, François Koch, qui eux dénonçaient une organisation antidémocratique. Tout ça, en plus de l'échec du Média, la télé fondée par les Insoumis, et de l'épisode désastreux des perquisitions en octobre dernier, est venu concrétiser une lente et continue perte de crédit dans l'opinion de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise, qui fait qu'aujourd'hui on les retrouve à 8 ou 9% dans les intentions de vote, bien loin des 19,3% du premier tour de la présidentielle de 2017.
Stéphane Robert, merci. Des frictions et des confrontations entre Emmanuel Macron et Angela Merkel, c'est ce que reconnaît la chancelière allemande dans une interview évoquant une relation conflictuelle et des différences de mentalité. Réaction de l'intéressé, nous devons accepter des désaccords momentanés pour construire un compromis, répond Emmanuel Macron, qui dit croire à la confrontation féconde. C'était l'un des reproches des Gilets jaunes au président français, le prix de l'énergie. Eh bien, au 1er juin, attendez-vous à une nouvelle hausse des tarifs de l'électricité, plus 5,9%. La précédente augmentation annuelle avait été gelée au mois de novembre face à la contestation. Voilà qui est rattrapé. Ce dont s'indigne Emmanuel Calafiore, la CLCV, Association nationale de défense des consommateurs et usagers.
La CLCV conteste en bloc la hausse de 6% du tarif de l'électricité. François Carlier estime que c'est un mauvais signal envoyé aux Français au moment où ils demandent un coup de pouce pour le pouvoir d'achat.
Alors même que les problèmes de prix de l'énergie, c'était quand même effectivement l'origine de la crise des Gilets jaunes. Donc derrière, augmenter de 6% dans un cadre aussi contesté, parce qu'il y a les associations de consommateurs, mais aussi l'autorité de la concurrence, ça nous paraît vraiment problématique.
Pour compenser la hausse, il y a bien le chèque énergie. En décembre dernier, le gouvernement a augmenté son montant de 50 euros, mais François Carlier estime que ce ne sera pas suffisant pour tous les ménages.
Il y a deux types de ménages en France. Il y a ceux qui ont un chauffage électrique, ceux qui n'ont pas de chauffage électrique. Pour ceux qui ont chauffage électrique, cette hausse de 6%, c'est en moyenne à peu près une centaine d'euros d'augmentation à l'année. Et la plupart de ces ménages n'ont pas de chèque énergie, y compris des ménages avec des revenus pas très importants.
Une lettre ouverte a été envoyée au président de la République. Elle est co-signée par la CLCV et l'UFC Que Choisir, mais pour le moment, elle est restée lettre morte.
Pour l'instant, c'est silence radio de l'État sur ce sujet vis-à-vis des associations de consommateurs depuis le début de l'année. Ce qui est assez rare. Elles ne répondent pas à nos courriers. C'est vraiment, on n'existe pas. De toute façon, nous préparons en ce moment notre cours devant les tribunaux. Notre position là-dessus est claire.
Le ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy, a annoncé la mise en place d'un nouveau mode de calcul des formules tarifaires pour l'année prochaine. Les associations de défense des consommateurs espèrent bien participer à cette révision.
Emmanuel Calafiore. La météo demain, le soleil sera un peu plus timide qu'aujourd'hui. Quelques averses sur le Jura. Ailleurs, ce sera voilé. Le matin, comptez 3 à 8 degrés jusqu'à 13 sur la Méditerranée. L'après-midi, 17 à 20 degrés sur la moitié nord. 19 à 22 degrés dans le sud. 22h15 sur France Culture. Je vous laisse en compagnie de Frédéric Worms pour Matière à penser.